pour sa grande interview du dimanche. Très bon dimanche justement à tous sur Radio Classique.
Radio Classique. L'invité classique d'Alain Duhaut.
Bonjour, bienvenue dans notre studio de Radio Classique. Vous le savez, mon invité pour la grande interview classique de la semaine est Suzanne Ramon. Vous le savez, puisque vous l'avez entendue cette semaine, comme régulièrement sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Suzanne Ramon.
Bonjour Alain Duhaut.
Est-ce que tout va bien ?
Absolument. Quand je vous vois, ça, tout va bien.
Bien, nous aussi, et surtout quand on vous entend. Alors, évidemment, je vous ai demandé de venir ici à Radio Classique pour que nous parlions de votre nouveau disque, le disque consacré à 3 concertos pour violoncelle de Vivaldi, de Bach et de Haydn, mais de Bach, pas n'importe lequel Bach. Carl-Philippe Emmanuel, un des fils de Bach, celui dont on célèbre cette année le tricentenaire. Un disque que vous avez enregistré avec la Camerata de Lausanne, dirigé, ce qui est une surprise, par Pierre Amoyal,
qu'on
connaissait plus comme violoniste que comme chef d'orchestre.
Excellent, magnifique violoniste, oui.
Alors d'abord, expliquez-moi la logique de ce disque, le rassemblement de ces 3 concertos de Vivaldi, Carl-Philippe Emmanuel et Haydn.
Disons que je voulais enregistrer pour une fois les concertos baroques, puisque c'est pas du Dvorak, pas du Schumann, pas de Elgar.
C'est ça, on vous connaît plus dans le répertoire romantique, c'est ça.
Oui, tout à fait. Et là, j'avais très envie d'aborder ce répertoire, d'autant plus que cette année, c'est une année jubilée. Et donc, il s'est trouvé que je cherchais 3 compositeurs qui soient tout à fait très proches au point de vue époque. Et donc il s'est trouvé Vivaldi, je trouve que c'est un concerto qui est extrêmement extraordinaire parce que en moins de 10 minutes, il a tout dit.
Oui.
Et ça, c'est le génie de Vivaldi. Donc, j'avais envie d'enregistrer ce concerto. Carl-Philippe Emmanuel Bach, c'est parce que ça se doit cette année. Et puis, Haydn aussi, j'avais envie d'enregistrer, que j'ai quand même pas mal joué déjà en concert. Et donc, j'avais envie de graver.
Alors, pourquoi la Camerata de Lausanne et surtout Pierre Amoyal?
Alors Pierre, je le connaissais encore du conservatoire, avant qu'il n'aille travailler avec Heifetz, puisqu'il est allé travailler pendant de longues années avec Yasha Heifetz, cet éminent violoniste. Et je me souviens, jusqu'à aujourd'hui, il jouait du Saint-Saëns et ça m'a énormément frappé. Donc je l'ai beaucoup apprécié. Donc ça remonte à presque à Mathusalem. Je ne veux pas dire que j'ai 100 ans, mais donc non. Ça remonte à nos années de conservatoire. Et c'était une conjoncture exceptionnelle. On a repris contact. Il a dit « Ah ben oui, je serais ravi de faire un disque avec toi ». Et il se trouve qu'il a créé cet orchestre de chambre, la Camerata de Lausanne, il y a une dizaine d'années, et qui est constitué des musiciens que lui, il est en grande partie, il les a formés en tant que violoniste. Et ce qui m'a beaucoup frappé, il m'a raconté qu'il les a recrutés pas seulement selon leur capacité, leur excellence musicale et instrumentale, mais aussi selon leur valeur humaine. Et ça c'est très très rare.
Mais j'imagine que ça vous a touché.
Ça m'a énormément touché et je dois dire que j'ai pu expérimenter. C'était une expérience exceptionnelle cet enregistrement parce que.
Qui a été réalisé où?
En Suisse, donc une acoustique exceptionnelle. On avait un ingénieur de son, Jean-Martial Golas, qui était excellent, qui nous a beaucoup épaulés pendant l'enregistrement, très critique, ne laissant rien passer, et ça, j'ai beaucoup apprécié.
Mais ça s'entend dans le disque, qu'il y a une espèce de clarté, un sentiment d'espace au fond dans cet enregistrement.
Oui. Et puis, il y avait une cohésion avec les musiciens, un sentiment d'ensemble que j'ai nulle part retrouvé. C'était familial. À la limite, on faisait musique en famille.
Pourtant, vous avez publié de nombreux disques, certains en studio, d'autres en direct. Mais pour qu'on vous connaisse mieux, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va remonter dans votre vie, vous parliez du conservatoire, on va même remonter plus haut, à votre naissance, vous êtes né en Israël...
À Budapest.
À Budapest, oui, plutôt. Oui. Vous êtes né à Budapest, en Hongrie, vous êtes allé en Israël après.
Tout à fait.
Vous êtes né à Budapest, dans quelle famille ?
Alors, ma mère était pianiste.
Ah oui.
Donc, j'étais bercée effectivement par la musique dès ma naissance, mais curieusement, je ne voulais absolument pas jouer du piano. Et quand j'avais 5 ans, elle m'a amené à un concert et j'étais tombée amoureuse de la sonorité de cet instrument. Et
c'est curieux
du violoncelle.
Oui, bien sûr.
Oui, parce que piano, j'en voulais pas, j'entendais toute la journée à la maison. Et c'est étonnant parce que j'avais 5 ans et ce qui m'a frappé, c'est le son. J'étais interpellée par la sonorité du violoncelle qui ne ressemblait en rien ni au piano ni au violon. Et en rentrant de ce concert, j'ai dit à ma mère, je veux jouer du violoncelle.
Votre père était musicien aussi ?
Non, pas du tout. Il était dans l'industrie.
D'accord. Et donc, votre maman a accueilli cette demande de violoncelle aussitôt ?
Elle était sceptique au départ, ouais. Très sceptique, en disant, ben, à 5 ans, ouais. C'est peut-être une lubie d'enfant, on va aller pas à pas, mais je tenais bon et j'ai passé le concours, puisque à Budapest, on ne recevait personne au conservatoire sans passer un examen. Et maman a dit, pour me mettre à l'épreuve, bon, ben alors, tu sais, si tu veux vraiment jouer du violoncelle, tu iras toute seule à cet examen. Alors, moi, je dis, bon, d'accord, si tu penses que c'est important. Elle m'a amené jusqu'au bus. J'avais 2 stations de bus à faire. Et puis, en descendant, je connaissais le chemin, malgré mes 5 ans, puisque souvent, avec ma grand-mère, on allait la chercher le soir au conservatoire.
Le conservatoire, c'était l'Académie Franz Liszt.
Voilà. Voilà, l'Académie Francis. Et alors là, il y avait ses collègues, puisqu'elle était professeure à l'Académie, il y avait toutes ses collègues en disant, mais où est ta maman? Alors j'ai dit, ah ben maman a dit que si je veux jouer du violoncelle, il fallait que je vienne toute seule. Donc tout le monde riait, j'ai passé l'examen, et donc j'ai été reçue, et je suis entrée avec dispense d'âge, pas à 5 ans, parce qu'à 5 ans, j'ai commencé juste à apprendre le nom des cordes, mais j'étais reçue à 8 ans avec dispense d'âge à l'Académie. Et donc, j'ai eu 2 ans après, juste avant qu'on ne quitte Budapest, j'ai eu le premier prix Béla Bartók.
Pas mal.
Dans ce lieu. Il y avait aussi des jeunes de 20 ans, donc la concurrence était rude, mais bon.
Et dans un lieu prestigieux où vous reviendrez, on en parlera tout à l'heure. Mais donc, on va suivre. Donc là, vous suivez vos études à Budapest. Et vous le dites, ensuite vous êtes parti, c'est là que vous avez émigré en Israël.
En Israël, tout à fait.
J'avais pris un peu d'avance tout à l'heure.
10 ans d'avance. Et donc j'avais 10 ans, nous avons émigré en Israël, et là j'ai continué mes études à l'Académie de Tel Aviv. Mmh. Et quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, je devais participer au concours Casals, qui cette année a eu lieu à Tel Aviv. Et je n'avais que 14 ans et on m'a dit que j'aurais une dispense d'âge. Et une semaine avant le concours, figurez-vous, un coup extraordinaire, je reçois une lettre pour dire qu'on ne m'accorde pas la dispense d'âge, donc je ne peux pas participer à ce concours. Après coup, il s'est avéré que mon propre professeur participait au concours, c'était sa dernière possibilité de le faire au point de vue âge. Est-ce c'était une raison, est-ce c'était pas une raison? Toujours est-il que j'étais absolument désespérée. J'ai dit à ma mère, bon, j'ai travaillé pendant un an à ce concours, je sens que j'aurais pu quand même tenir ma place d'une manière assez honorable, mais j'aimerais au moins jouer ce programme à quelqu'un pour au moins avoir le sentiment que j'ai pas travaillé pour,
oui,
rien.
Pour rien.
Alors elle, étant vraiment musicienne, elle a dit, mais tu sais, il faut que tu saches, on ne travaille jamais pour rien. Même si ça n'aboutit pas, il faut que tu saches pour toute ta vie, quoi que tu fasses, le travail n'est jamais perdu. En tout cas, elle est allée voir Navarra, qui était
André Navarra,
donc
qui était à Tel Aviv.
Qui était à Tel Aviv, il était membre du jury.
Ah, d'accord.
Et c'était Casals qui présidait le jury. Encore, il était
parce
là.
Que le prix portait son nom.
Oui, tout à fait. Et donc, il a dit, il était extraordinaire, André Navarra, parce qu'il était toujours très friendly et très, très gentleman. Et il a dit à ma mère, mais bien sûr, je veux bien l'écouter, mais venez sur le lendemain à 10h à mon hôtel. Alors, nous sommes allés toutes les deux à son hôtel à 10h. J'ai déballé le violoncelle et j'ai commencé à jouer.
Et
ça, jamais je n'oublierai cette matinée. qui a duré pendant des heures, parce que Navarra, il fumait beaucoup, alors une cigarette après l'autre. Il m'a écouté, j'ai joué quasiment tout le programme, et ensuite il a commencé à m'expliquer, à me donner quasiment une masterclass privée, en disant ben tu ferais mieux de mettre tel doigté, ou bien le coup d'archer au lieu de tirer, eh bien pousser ici, etc. Il était passionné et il a complètement oublié l'heure. Et le concours de l'après-midi devait commencer à 14h. Et nous à 14h, on était toujours en train de jouer du violoncelle. Et personne n'osait l'appeler dans sa chambre en disant « Mais si Navarra n'est pas descendu, c'est qu'il y a quelque chose. » Bon, et tout le jury attendit en bas, dans le hall de l'hôtel. C'était l'hôtel Dan. Je me souviendrai toujours parce que ça m'a tellement marqué. Et puis tout d'un coup, à 3h moins quart, il regarde sa montre et il dit « Oh, j'ai complètement oublié, j'ai pas vu le temps passer. » Et donc, il voulait m'amener tout de suite à Paris pour travailler avec lui en disant « Bon, vous avez déjà tout appris ce que vous pouviez apprendre ici. Maintenant, il faut aller plus loin et je vous amène à Paris. » Et alors, maman a dit, bon, c'est vraiment, ça aurait été extraordinaire, mais nous n'avons pas les moyens financiers de pouvoir soutenir ce voyage. Et puis, Suzanne n'a que 14 ans. Et puis, Paris, il y a quand même aussi la réputation de Paris. C'est la ville lumière, mais aussi...
La ville de perdition.
La ville de perdition.
Alors, on va s'arrêter là. On va faire une petite page de publicité pour maintenir le suspense. Et vous allez ensuite, Suzanne Ramon, nous raconter ce qui s'est passé après.
D'accord.
Chaque jour sur Radio Classique, suivez le tournoi de Roland-Garros avec FedEx, solution de transport adaptée à vos besoins en France et dans le monde.
Bonjour, c'est Francis Drezel. Dans le cadre des concerts de légende diffusés le dimanche soir sur Radio Classique, je vous propose ce mois-ci toute une série d'enregistrements publics de Raphaël Kubelik, dont on célèbre le centenaire. Ce dimanche, Kubelik de retour à Prague en 1990 avec Smetana, Mozart et Dvorak.
21h sur Radio Classique, retrouvez le grand concert classique du dimanche soir présenté par Francis Drezel.
En 2014-2015, l'Opéra Comique fête ses 300 ans. Une saison festive, créative et enlevée. Une occasion à ne pas manquer pour découvrir des spectacles ouverts à tous. Concerts, récitals, opéras, jeunes publics. Réservez dès maintenant vos places pour la nouvelle saison de l'Opéra Comique au 0825 0101 23, 15 centimes la minute et sur opéra-comique.com.
La guerre 14-18, vue par les autres. À l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, Courrier International dresse le portrait des 70 pays qui ont fait cette guerre, de la Russie à la Turquie, en passant par l'Italie ou la Chine. Courrier International est allé chercher dans les journaux du monde entier les articles consacrés à la guerre 14-18. Redécouvrez la Première Guerre mondiale dans ce nouveau hors-série histoire de Courrier International, La guerre des autres.
Être en retraite, c'est bien. Mais en profiter, c'est mieux, non? Savez-vous qu'en vendant votre bien immobilier en viager avec René Coste, vous pouvez percevoir une rente mensuelle à vie?
Alors augmentez considérablement votre pouvoir d'achat sans bouger de chez vous grâce au viager. Pour une étude gratuite, personnalisée et sans engagement, 0810 500 600, 0810 500 600, prix d'un appel local.
René Coste Viager. Le numéro 1 du viager en France.
L'Orchestre de Paris vous donne rendez-vous salle Pleyel. Les 11 et 12 juin, le chef Yuta Casado dirige le Lac des Cygnes de Tchaïkovski et le 5e concerto pour piano de Saint-Saëns avec Jean-Yves Thibaudet. Les 18 et 19 juin, ne manquez pas Pavoyervie dans un programme symphonique 100% Beethoven. Yuta Casado et le Lac des Cygnes les 11 et 12 juin et Beethoven avec Pavoyervie les 18 et 19 juin, c'est salle Pleyel à Paris. Informations sur orchestredeparis.com.
Allez, encore une poignée de secondes de patience et on se retrouve pour une nouvelle séquence.
Vous êtes diabétique traité par insuline, ce message est pour vous.
Bonjour Marie, tu as l'air soucieuse.
J'attends mes résultats d'hémoglobine glycée. C'est lent 3 mois entre deux dosages en laboratoire.
Moi, avec mon nouveau lecteur de glycémie MyStar, je sais où j'en suis entre tes prises de sang. Avec MyStar, à partir de mes résultats de glycémie, j'ai en plus une estimation de mon hémoglobine glycée. Et depuis, je suis très motivé.
MyStar Extra, premier lecteur de glycémie avec calculateur d'A1C. Dispositif médical de diagnostic in vitro de Sanofi Diabète. La fonction A1C estimée ne doit pas être utilisée chez la femme enceinte. Pour plus d'informations, consultez la notice. Parlez-en à votre professionnel de santé ou rendez-vous sur mystarextra.fr.
Radio Classique. Heures, 13h30,
L'invité classique d'Alain Duhaut.
Alors, on se retrouve toujours avec Suzanne Ramon pour cette grande interview classique de la semaine. On était, Suzanne Ramon, en train de suivre vos débuts et on était arrivé à un moment crucial, cette rencontre formidable avec Navarra et puis son souhait de vous accueillir dans sa classe au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et votre maman qui a dit, on n'a pas les moyens.
Voilà, on n'avait pas les moyens. Alors, Navarra a dit, maman a dit, on va peut-être attendre un an encore, elle aura 15 ans, et pendant cette année-là, on va regarder comment on peut financer ce départ. Et alors, je me souviens que Navarra m'a donné un programme à travailler très précis avec mon professeur. Et entre-temps, pendant cette année-là, j'ai donné un récital à Tel Aviv. Et à ce récital, il y avait deux personnes qui ont changé le cours des choses de ma vie. Un journaliste et un industriel. Alors le journaliste, bien sûr, le récital a eu un grand succès. Il a écrit un article dithyrambique. Et ça s'est répandu, je ne sais pas comment, mais ça s'est répandu que je devrais aller à Paris pour travailler avec André Navarra. Et alors, il annonça aussi dans son article. Et il connaissait très bien Georges Tsifra, le pianiste hongrois qui était déjà à ce moment-là installé.
Et qui était, lui, à Paris déjà.
Lui, oui, depuis 1956, lui, il était à Paris. Et là, ça se passe entre 1961 et 1962. Et donc, il a demandé dans une lettre que j'ai gardée jusqu'à présent. La lettre que Tsifra lui a répondu, il a demandé à Tsifra que je suis sur le point d'arriver à Paris et que s'il peut m'aider, c'est le moment de faire quelque chose parce que j'étais une grande espoir d'Israël. Et alors, donc, Tsifra a répondu que c'est cette lettre-là que j'ai gardée. Et il a dit, mais quand Suzanne va arriver à Paris, qu'elle mette mon adresse sur un papier, qu'elle montre au chauffeur de taxi et qu'elle vienne directement chez nous.
Donc, parce qu'il pensait que les chauffeurs de taxi le connaissaient tous.
Je ne sais pas.
Il y avait quand même l'adresse.
Bon, alors ça, c'était une chose que je mets maintenant entre parenthèses. Et la deuxième chose, c'est l'industriel israélien Nahum Bernstein, qui était très connu pour ses œuvres où il aidait les jeunes.
Le mécénat, oui.
Le mécénat. Et alors, il était à ce concert. Et puis, 4 jours après ce récital, on sonne à la porte.
C'est vous.
Chez nous, voilà. Et figurez-vous qu'il y a deux grands malabars qui arrivent avec un énorme meuble, en disant, voilà, c'est pour Suzanne Ramon. Alors ma grand-mère qui a ouvert la porte a dit, mais non, vous devez vous tromper, nous n'avons rien commandé, rien acheté, c'est une erreur. Alors les deux livreurs, ils ont insisté en disant, écoutez, il y a une lettre dans ce meuble-là, en tout cas on le dépose et puis vous allez voir. Alors, on attendait que maman entre le soir, et puis on ouvre la chose qui était quand même volumineuse. Eh bien, figurez-vous que c'était un radio, un meuble radio, comme on faisait à l'époque, avec des disques intégrés, pathéphone intégré pour écouter tout. C'était extraordinaire. Et puis une lettre, effectivement, qui dit que j'étais au récital de Suzanne il y a 4 jours et ma femme et moi on aimerait beaucoup la connaître, est-ce que vous pouvez venir tel jour chez nous. Alors c'était quand même intéressant parce que maman a dit
comment est-ce qu'il avait eu votre adresse là?
Ah, par le conservatoire, oui, probablement, le conservatoire de Tel Aviv.
Alors, donc, vous l'avez rencontré, ce Nahum Bernstein?
Nous sommes allés, et alors, donc, lui, il était déjà au courant que je suis sur le point de partir, et il a dit, écoutez, moi, je vais financer tout le voyage et les études de Suzanne à Paris, donc, n'ayez aucun souci, elle peut partir dès maintenant.
Donc, vous aviez quelqu'un pour financer le voyage et les études, quelqu'un pour vous abriter.
Accueillir, oui.
Chiffra, donc tout à
l'heure. Absolument.
Donc, et c'est ce qui s'est passé.
Et c'est ce qui s'est passé. C'était vraiment un conte de fées, donc je suis arrivé à Paris. Et du coup.
Sait d'ailleurs que Chiffra vous aimait beaucoup, puisqu'il a, dans un certain nombre d'interviews, parlé de vous, et il parlait de vous comme un peu sa fille adoptive.
Et tout à fait, parce que quand nous sommes allés, maman et moi, le voir, il a dit, bien sûr, apportez le violoncelle, je veux entendre Suzanne. Et alors, quand on a fini la visite, Madame Tsifra a dit, appelez-nous demain. Et quand on a appelé, Madame Siffre a dit, écoutez, Georges et moi, on avait décidé que Suzanne va rester chez nous comme notre fille pendant toutes les études au conservatoire, toutes ses études au conservatoire.
C'est formidable.
Donc, ne cherchez plus de chambre de bonne, ne cherchez plus rien. Et plus tôt elle viendra chez nous, mieux ça vaudra parce que plus ça va faciliter votre séparation. C'était effectivement la première fois que j'ai quitté la maison et c'était pas facile.
Donc, ça vous permettait aussi de parler hongrois. C'était votre
langue natale. C'était un avantage et un inconvénient.
Un inconvénient parce que vous parliez pas français.
Voilà, exactement. Jusqu'au jour où j'ai décidé au conservatoire, Navarra était adorable. Il m'a parlé toujours en français et il faisait semblant que je comprenais tout. Bon. Il est vrai qu'en musique, on n'a pas besoin tellement parler la langue. Mais après, j'ai appris le français. Donc, j'étais chez eux, effectivement.
Donc, en tout cas, c'est des débuts tout à fait extraordinaires. Et en même temps, évidemment, sous une...
J'avoue beaucoup de chance, oui.
Sous une belle étoile. Alors ensuite, donc, bon, vous avez passé des concours. Vous avez remporté l'Académie Chigiana
de
Sienne et
Genève. Aussi.
Et puis on vous a connu par un premier disque. Moi, je me souviens, c'était il y a quelques années, un disque que vous avez enregistré avec Catherine Collard.
Oui, les sonates de Brahms.
Voilà, et qui a été un choc pour un certain nombre, dont moi, mais beaucoup d'autres. Je me souviens ici à Radio Classique, Francis Drezel, par exemple aussi, qui vous aime beaucoup et qui vous a connu par ce disque. Et c'était pour vous la première rencontre avec une pianiste. Et je sais que vous choisissez vos partenaires avec beaucoup de circonspection. Qu'est-ce que vous demandez à un partenaire dans la musique de chambre, Suzanne Ramon?
Je demande quelque chose qui est très difficile à obtenir et qui est comme pour un mariage. Je demande une osmose musicale. Bon, forcément, le partenaire doit avoir une technique et une musicalité qui soit semblable au mien. Et que, on ne soit pas obligé d'expliquer ce qu'on veut faire. Que ça soit naturel. Quand on s'entend l'un l'autre, on puisse répondre. C'est, dans les sonates, c'est vraiment une œuvre commune. On bâtit l'œuvre ensemble. Et je demande que cette musicalité soit semblable à la mienne et la sonorité aussi du pianiste qui est beaucoup plus difficile.
Mais Suzanne Ramon, comment est-ce que vous les trouvez? Comment est-ce que vous avez rencontré Catherine Collard, par exemple?
Alors Catherine, c'était le plus simple parce que je la connaissais du conservatoire. On a eu notre premier prix de musique de chambre ensemble. Ah. Avec un trio de Brahms. Et donc, je la connaissais, et puis je l'avais complètement perdue de vue pendant des années. Et puis, un jour, par hasard, à Aix-en-Provence, j'ouvre la porte et je la vois jouer du piano. Alors, on est tombés dans les bras l'une de l'autre, et c'est là, l'idée est venue de faire un disque. Et quoi enregistrer du Brahms, dont on était toutes les deux vraiment passionnées.
Parce que ça a été un disque magnifique. Vous avez enregistré aussi un disque Schumann. Et puis, alors, vous avez un disque qui, évidemment, nous ramène à vos débuts. C'est un disque qui s'appelle Back to Budapest.
Oui, le concerto de Schumann.
Voilà, c'est le concerto de Schumann, mais qui est en même temps une belle histoire. Je voudrais que vous racontiez l'histoire de ce disque, c'est-à-dire l'histoire de ce retour.
Oui. Je crois que c'était peut-être le concert le plus émouvant de tous mes concerts, puisque je suis retournée après tant d'années. J'ai quitté donc en 57 et je suis retournée en 2004.
Oui, vous n'étiez jamais retournée entre-temps.
Jamais retournée entre-temps. Et il se trouve que l'orchestre qui m'a proposé ce concert avec un enregistrement live, c'était l'orchestre de la radio Budapest, qui est un excellent orchestre, et
dirigé par
un Français, Philippe de Chalandard, et qui vit d'ailleurs en Hongrie. Il a épousé une Hongroise. Et donc, ce qui m'a été proposé était extraordinaire parce que le concert, pour que ça ait lieu, à l'Académie Franz Liszt.
Dans la belle salle verte.
Dans la belle salle verte où vous étiez présent. Et vraiment, c'est là que j'ai eu ce prix Béla Bartók, sur cette scène-là, et retrouver mes racines tant d'années après. C'est pour ça que j'ai choisi le concerto de Schumann, parce que j'ai trouvé que ça correspondait pas seulement à moi, mais aussi à cette circonstance absolument exceptionnelle.
Et c'est un enregistrement extraordinaire, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment à découvrir. Il y a une intensité dans l'expression de ce concerto de Schumann.
J'étais très ému.
Quelque chose de flamboyant en vous. Là, je me souviens d'ailleurs que tout était flamboyant. Vous aviez, si je me souviens, une robe rouge.
Oui, tout à fait. Bonne mémoire.
Alors, on avance tout cela, mais je voudrais, puisque maintenant vous jouez aussi sur un magnifique instrument, un Guarnerius de 1690, c'est cela ?
Exactement, oui, vous, Andreas Guarnerius.
Voilà, je voudrais que vous m'expliquiez comment vous avez rencontré, cette fois non cet pas une personne, mais cet instrument.
Alors, l'histoire de cet instrument est assez exceptionnel. J'étais en tournée aux États-Unis et je n'étais pas très pressée de rentrer à Paris. Et je disais à mon mari, écoute, on a quelques jours devant nous. Pourquoi, ça fait 20 ans que je cherche un instrument italien, pourquoi on ne regarderait pas un tout petit peu? Donc, j'étais à New York. Mais là, je fais tout petit retour en arrière, 3 ans avant. Je suis allée écouter à la salle Pleyel Yo-Yo Ma. Et c'est pas seulement que c'est un immense artiste et qu'il joue admirablement bien, mais son instrument sonnait aussi magnifiquement. Et à l'entracte, je suis allée le féliciter, puis je dis, mais qui est-ce qui règle ton instrument? Il m'a répondu, il n'y a qu'un. À New York, c'est René Morel. Alors j'ai dit, ah bon? Eh bien, donne-moi son adresse. Donc j'avais cette adresse-là depuis 3 ans dans mes archives. Pendant ces 5 jours qu'on a passé à New York supplémentaires, je dis à Benoît, bon, ben, allons le voir.
Benoît, c'est votre mari?
Benoît, c'est mon mari. Et alors, donc, on est allé le voir et il m'a apporté peut-être une dizaine d'instruments à jouer. Il m'a apporté, il les sortait de son coffre-fort parce qu'il avait un coffre-fort, une pièce coffre-fort où tous les grands instruments se gardaient. Et alors, quand je suis tombée sur mon Guarnerius, oh, j'ai passé l'archet, je l'ai mis de côté. Et puis, je continue à essayer. Puis, je lui ai dit, écoutez, ça vraiment, je trouve que ce Guarnerius est exceptionnel. Moi, j'aimerais l'entendre dans une grande salle. Alors, il a tout de suite téléphoné à Isaac Stern. Stern n'était pas à New York, donc il ne pouvait pas nous faire accéder au Carnegie Hall. Et puis alors, on a continué à regarder aussi des instruments chez d'autres luthiers. Et là, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, mais est-ce que vous voulez me jouer cet instrument? C'était un autre instrument. Je suis intéressé à l'entendre. Je dis, mais avec plaisir. Mais vous savez, j'ai un peu le même problème. J'ai trouvé un instrument chez un autre luthier, mais j'aimerais l'entendre dans une grande salle. Et puis, je ne vois pas comment. Et alors, elle nous a fait entrer au Avery Fisher Hall. Qui fait partie du Lincoln Center, qui est une salle absolument magnifique, gigantesque. Et René Morel est venu me régler l'instrument sur l'estrade. Ce qui était extraordinaire. Et alors donc, voilà. Le problème se posait de comment payer cet instrument, parce qu'on avait une toute petite partie, mais pas le reste. Et alors là encore, beaucoup, beaucoup d'amis s'y sont mis. Ouais. Ils se sont réunis pour pouvoir réunir la somme, plus la banque, et donc voilà, j'ai pu avoir.
Et donc vous avez maintenant cet instrument qui est un instrument absolument magnifique, une puissance, une profondeur.
Ça me correspond comme son.
Oui.
Et il suffit pas d'avoir un grand instrument, il faut encore que ça corresponde à ce que vous entendez, le son que vous entendez à l'intérieur de vous.
On pourrait parler longtemps encore avec vous, Suzanne Ramon, mais voilà, notre demi-heure va s'achever. Je voudrais rappeler votre dernier disque qui réunit donc 3 concertos de Vivaldi, de Bach et de Haydn avec la Camerata de Lausanne dirigée par Pierre Amoyel. C'est toujours sous le label Arques, sur lequel vous avez publié nombre d'autres disques. J'ai envie maintenant de vous demander quand est-ce qu'on va vous entendre, parce que vous avez une carrière particulière, vous allez jouer de temps en temps un peu partout dans le monde, vous faites des disques, mais on a le sentiment que de temps en temps, vous vous enfermez chez vous, vous jouez peut-être simplement pour votre mari, Benoît, qui a bien de la chance, mais il y en a beaucoup d'autres qui aimeraient vous entendre. Est-ce que vous avez, dans les mois qui viennent, des projets de concert en France?
Oui, mais pas en France. Là, je joue à Lugano au mois de juillet.
C'est pas trop loin.
Et puis, en septembre, j'ai 2 concerts à Venise.
Oui.
Justement, des sonates de Brahms avec Emmanuel Swiert.
Ah, Emmanuel Swiert, c'est une excellente pianiste.
Oui, oui.
Elle a un nom pas facile à prononcer, mais c'est une grande pianiste.
Non, elle est excellente et elle est adorable, donc voilà. Mais à Paris, je n'ai pas pour le moment de visibilité.
Alors vous allez me faire une promesse, Suzanne Ramon, c'est que dès que vous aurez un concert en France, à Paris ou en France, vous nous appelez à Radio Classique et vous venez nous en parler. Et comme ça, ça
avec
permettra
plaisir
de continuer à vous retrouver, ce qui est toujours un plaisir.
Avec grand plaisir. Et merci beaucoup.
Pour merci et à bientôt.
Ces moments passés ensemble.
À bientôt avec votre beau Guarnerius.